Donc on va commencer une table qui n'est pas très rose d'ailleurs, mais enfin bon.
Voilà. Ah oui.
Alors le thème qui a été proposé pour éventuellement donc une table ronde, c'est-à-dire un échange et peut-être informel, en tout cas pas tout à fait dogmatique pour reprendre ce terme, c'était le sens de la mystique chez Henri Corbin. Alors, essayant de réfléchir à cette question, je n'ai pas pu aboutir à une définition univoque, et je proposerai donc simplement un certain nombre de pistes ou de constats en vue de vue d'en approcher la signification. Alors d'abord, je remarque sur le plan empirique que dans les index préparés par Henri Corbin ou à la manière dont il avait lui-même indiqué, le mot mystique est peu présent ou absent, franchement absent. Que lorsqu'il est présent, les items, les références sont rares et généralement concernent des emplois prédicatifs du terme. Intelligence mystique, attitude mystique, expérience mystique. Mais la mystique comme telle ne semble pas avoir l'importance que peuvent avoir d'autres concepts. Vous pouvez le vérifier dans la plupart des œuvres majeures, en particulier dans celle qui a été publiée du vivant même de Corbin. Ça, c'est un constat. Mais en réalité, c'est que d'autres concepts viennent occuper la place laissée absente par un usage peut-être qui aurait pu être plus fréquent de celui-là. Mais ces constats empiriques nous renvoient inévitablement à une question. Pourquoi une expression comme la mystique, des problèmes qui tournent autour de la mystique et qui sont monnaie courante dans l'histoire des religions, dans la philosophie des religions, à l'époque où Henri Corbin commence à travailler dans ce domaine, ne l'ont-ils pas poussé à s'inscrire dans un tel cadre, me semble-t-il? Alors, il y a à cela peut-être un certain nombre de raisons. Je laisserai de côté, parce que ce n'est pas là mon sujet, le domaine dans lequel Corbin a énormément finalement produit, qui est le domaine de classiquement appelé du soufisme, du tasawuf, au sens le plus large, c'est-à-dire incluant aussi bien des figures comme celle de Rose Behan Bakli de Shiraz que celle de Ibn Arabi. Encore que là aussi, la question se poserait de savoir quel usage il peut faire du concept de mystique et quel sens il peut avoir. Je me contenterai de, c'est déjà considérable, de chercher les raisons pour lesquelles Henri Corbin préfère d'autres concepts, et ceci en tant qu'il est philosophe et qu'il n'a jamais renoncé à sa position de philosophe et à la philosophie comme telle. Alors, je remarquerai que, pour l'essentiel, ceux qui ont mis en valeur le concept d'expérience mystique, et que pouvait connaître et que connaissait effectivement Corbin, n'était pas favorable à la philosophie, à la philosophie comme discipline, comme recherche et même comme mode de vie. Pour aller vite, je ne citerai qu'un seul exemple, parce qu'il compte énormément pour Corbin, c'est évidemment l'exemple de Jean Baruzy. On voit parfaitement que chez Jean Baruzy, la mise en valeur de l'expérience mystique, du concept d'expérience mystique, tel qu'il l'analyse phénoménologiquement chez Jean de la Croix, chez Saint Jean de la Croix, correspond à tout un ensemble de considérations, de savoirs et d'analyses qui sont extérieures et même hostiles à la démarche du philosophe. Le saint, celui qui éprouve jusqu'au risque suprême la recherche de l'union avec Dieu, et d'une union qui soit authentiquement vécue et authentiquement transformante, l'union transformante du saint, donc, se distingue de toute espèce d'exercice de l'intelligence. Vraiment, c'est un des axes de tout ce qu'a pu écrire Baruzzi, y compris lorsqu'il parle d'intelligence mystique, que de souligner que l'intelligence, et l'intelligence philosophique au premier chef, présuppose la séparation du sujet et de l'objet connaissant, tandis que l'expérience mystique serait ce qui transcende, efface et dépasse une telle distinction, une telle séparation du sujet et de l'objet. Alors, il restera des traces chez Corbin de cela, et c'est ce qui explique, c'est d'ailleurs ce qui rend compliqué notre travail, c'est ce qui explique que Henri Corbin ait mis l'accent dans ses recherches en philosophie islamique sur les courants de pensée qui mettaient en valeur l'unité foncière du sujet qui intellige, de l'objet intelligé et de l'acte d'intellection. Je rappellerai, à la suite de Daniel de Smet ce matin, que ces thèses sont des thèses aristotéliciennes, et en particulier l'unité de l'intellect, de l'intelligé et de l'intellection, et n'implique en elle-même aucune espèce de mystique. Mais incontestablement, Henri Corbin en philosophie islamique, mettant l'accent sur l'unification, a tenté d'intégrer à des thématiques philosophiques quelque chose qui relevait chez Baruzzi, par exemple, de l'expérience mystique. Il reste que la mystique apparaît, et pas simplement chez Baruzzi, comme l'autre de la science, de la connaissance et de la philosophie. Je ne suis pas sûr que Henri Corbin se soit beaucoup intéressé à Wittgenstein, et la mode de Wittgenstein est venue à partir des années 60 en France, et à mon avis, ça ne devait pas préoccuper énormément Henri Corbin. Il n'empêche que Wittgenstein a donné une notion de la mystique, ou plus exactement de l'élément mystique, qui a été repris à son compte par un grand historien et philosophe à la fois de la Grèce et de la spiritualité, c'est-à-dire Pierre Hadot. Et dans son très beau livre sur Wittgenstein, Pierre Hadot, reprenant un certain nombre d'articles antérieurs, a parfaitement analysé la très fameuse septième proposition du Tractatus Logico-Philosophicus de Wittgenstein, dans lequel il énonce « ce que l'on ne peut dire, il faut le taire ». Et il entend « ce que l'on doit taire, ce sur quoi on doit faire silence, il faut le montrer ». Et ce que l'on montre, ou ce qui se montre, c'est, dira-t-il, l'élément mystique, ou le mystique. Je ne vais pas commenter de façon plus détaillée ce que dit Wittgenstein, mais incontestablement, Pierre Hadot a raison de dire que Wittgenstein se place dans une tradition, disons, de l'apophatique, où, au-delà de ce que le discours de la science énonce, et qui est le domaine des discours de vérité selon l'entendement, il y a quelque chose qui n'appartient pas au monde, si le monde est tout ce qui arrive, pour reprendre la définition de Wittgenstein, donc qui est hors univers, mais qui cependant, quoique ineffable, a besoin de se montrer parce que c'est ce qui compte vraiment. Et sur ce point, Pierre Hadot, à la suite d'interprètes anglo-saxons de Wittgenstein, avait parfaitement raison d'ajouter que ce qui comptait vraiment pour un penseur comme Wittgenstein, c'était précisément le mystique, c'est-à-dire ce dont la science ne s'occupe pas, ce qui n'est pas dissible, mais qui doit se montrer. Alors comment cela se montre, c'est autre chose. Mais je citais cela, y compris l'interprétation d'Hadot, pour rappeler que Wittgenstein appartenait à cette famille d'esprits selon laquelle il y avait une opposition entre montrer et dire. Cette opposition, vous la trouvez encore aujourd'hui chez les poètes, vous la trouvez par exemple chez un grand esprit qui est Yves Bonnefoy, vous la trouvez chez un très grand nombre de spécialistes de l'œuvre d'art, chez un certain nombre de spécialistes de la spiritualité. La philosophie serait du côté de la science, et on sait par exemple que pour Wittgenstein, la métaphysique ou pensée des fondements était un discours vain, sans signification, la science, elle, ayant une signification. Donc la philosophie serait au mieux du côté de la science, au pire, elle serait un discours vain en tant que métaphysique, tandis que la mystique serait du côté de ce qui compte vraiment pour l'être humain et qui se montre sans se dire. Cette coupure qui est, recouperait d'autres coupures. Et on pourrait être étonné que Henri Corbin, traducteur des textes de Heidegger sur Hölderlin, n'en ait pas tiré les leçons que bien des lecteurs de Heidegger, commentateurs de Hölderlin, ont tirées. Parce que ces leçons iraient dans le sens aussi d'une distinction, d'une coupure entre le poète, gardien de l'être, qui serait au fond le frère du mystique et le philosophe, lui pratiquant depuis Aristote et peut-être même Platon les déboires de l'oubli de l'être. En réalité, Corbin précisément refusera cela. Je pense que si on pouvait adopter une formule, on pourrait dire il est impérieux de ne pas renoncer à dire ce que l'on peut pas dire, ou plus exactement, consentir à ce qu'il y ait de l'indicible, mais faire en sorte que ce qui se manifeste et qui est dicible soit dit. D'où le refus de l'opposition du philosophique et du mystique, du poétique et du philosophique, du rationnel et de l'irrationnel, etc., etc. Voilà pourquoi je crois que le mot mystique n'appartient pas en effet à son vocabulaire et ne peut pas y appartenir parce qu'il est toujours solidaire d'un autre terme généralement antithétique et que généralement on oppose le mystique qui serait ce qui importe et ce qui est vrai au scientifique, au rationnel, au éventuellement à l'aristotélicien, au péripatéticien, c'est-à-dire bien entendu au ratiocinant et au faux. Alors, vous allez dire, vous tordez la barre, vous chantez la palinodie, vous allez à Canossa, etc. Je ne crois pas. Je crois en tout cas pour ce qui est de la philosophie, que cela explique un certain nombre d'éléments que je me contenterai aussi simplement de résumer, d'ailleurs en faisant référence à bien des choses qui ont été déjà excellemment dites et bien mieux que je ne pourrais dire. Je crois que le couple fondamental chez Corbin, le couple de concepts n'est pas le couple discursif mystique, mais le couple exotérique-ésotérique. Je ne fais que dire une banalité. Mais le couple exotérique-ésotérique exclut en réalité le concept de mystique. Car il n'y a pas d'ésotérique sans exotérique, et il n'y a pas d'exotérique sans ésotérique. Ceci d'ailleurs me fait faire référence à ce que disait ce matin Daniel de Smet. L'appel à des schèmes néoplatoniciens n'exclut pas un certain nombre d'attitudes, bien sûr, que l'on peut appeler, pour être banal et confus, spirituelles, mais en tout cas exclut une attitude mystique qui consisterait à attester l'unité et l'unicité du principe par une expérience et même une sensibilité spirituelle supérieure, fût-elle extatique et fugace. Ensuite, ce que je souhaiterais énoncer, simplement sous forme de thèse, c'est que, bien entendu, le concept majeur en philosophie chez Henri Corbin, c'est le concept qui s'énonce en arabe par le terme al-misal. Le symbole, l'image. Mais attention, al-misal, ou al-masal, selon les emplois, bref, cette racine masala, implique des dualités que le mot symbole d'ailleurs lui-même désigne, Dualité, c'est-à-dire correspondance. Ce qui est un missal, ce n'est jamais une chose, c'est une relation. La philosophie d'Henri Corbin est une philosophie de la relation. On a dit tout à l'heure l'importance des médiations, du monde médian et médiateur. Je crois que c'est une philosophie foncièrement irénique, foncièrement médiatrice, qui est tout sauf ce que l'on rencontre par exemple chez Louis Massignon, lecteur de Hallaj, c'est-à-dire une quête ou un pèlerinage de l'absolu. L'absolu, si j'ose dire, est dans la position d'un principe qui peut-être est ineffable, peut-être même est l'objet de multiples négations, mais en tout cas, on appelle trop à la figure du père. Ce qui importe à Henri Corbin, c'est moins le principe que ce qui en émane. Alors du coup, je dis peut-être un point encore important que je souhaitais mentionner. S'il y a une notion qui est apparue je ne sais combien de fois, c'est plusieurs d'entre nous, et qui ne manque jamais d'intervenir dans nos discussions autour de Corbin, c'est le concept du monde imaginal. Je ferai à cet égard un certain nombre de remarques, si vous le voulez bien. Pourquoi fait-on sans cesse appel à ce concept qui, il faut bien le dire, est une invention lexicale au moins aussi géniale que historiale? Henri Corbin est un prodigieux inventeur de concepts. Si l'on pense que la philosophie est aussi invention de concepts, on peut là reconnaître une véritable création. Le monde imaginal, ou alors, surtout lorsqu'on dit mundus imaginalis, qui est une orchestration extraordinaire de la notion, et qui aujourd'hui vraiment sert de matrice à tout un tas d'interprétations, c'est évidemment un concept philosophique. Donc c'est pour ça que j'en parle, il a émergé dans l'interprétation de la philosophie islamique par André Corbin. Or, que peut-on en dire qui importe à notre affaire de la mystique? D'abord, le mundus imaginalis a un grand avantage. Bien que dans les textes, si vous vous y référez, je veux dire les textes qui servent d'appui à Henri Corbin, ce monde imaginal soit nommé expressément chez les philosophes chiites vieux décimains, j'allais dire tardifs, c'est-à-dire du XVIIe et du XVIIIe siècle. Henri Corbin en fait un usage généralisé. Il montre, ou il pense montrer, mais ce qui nous importe, c'est ce qu'il pense faire. On n'est pas en train de juger, ça n'a pas de sens. Mais il en étend l'usage à ce qui précède, en particulier toute la tradition ishraqi, et aussi à l'univers du soufisme d'Ibn Arabi. Mais je ferai cette remarque, que le livre, qui est peut-être son livre par excellence, qui est le livre sur Ibn Arabi, l'imagination créatrice dans le soufisme d'Ibn Arabi, qui est un livre, là aussi, génial d'aller chercher ce concept d'imagination chez Ibn Arabi. Et tout repose sur la pointe d'aiguille d'une phrase des Foussous d'Ibn Arabi. Le monde est imagination en imagination. Tout repose là-dessus. Lui permet de faire de la thématique un peu sèche de l'âme du monde une thématique vivante reposant sur une métaphysique de l'image, pour parler comme il le dit. Et la métaphysique de l'image permet toutes les réconciliations du sensible et de l'intelligible. Là encore, je ne fais qu'aborder des choses bien connues. Or, c'est situer immédiatement la réflexion philosophique au niveau de cette troisième hypostase, au niveau de l'âme du monde. Et c'est d'ailleurs une source d'étonnement pour le philosophe. Comment peut-on agir ainsi? Alors que toutes les philosophies antiques de tradition néoplatonicienne valorisent par excellence la relation ou la non-relation, comme on voudra, entre l'un et l'intelligence. Certains, d'ailleurs, s'en sont un tout petit peu agacés. Je pense par exemple à Chodkiewicz, qui ne cessait de parler de l'obsession du monde imaginal chez Henri Corbin. Ils ont quelques raisons tout de même de le faire. Parce que toute l'opération philosophique consiste à déplacer le regard depuis la relation fondamentale de l'un à l'intelligence vers la relation entre l'intelligence et la nature, entre l'intelligible et le sensible, qui est le monde de l'âme. Or, le monde de l'âme, c'est aussi bien l'âme du monde que le monde de l'âme humaine. Ce qui rejoint d'ailleurs les soucis anthropologiques que vous avez, je le sais, et vous avez bien raison. Ça rejoint d'ailleurs la traduction du Dasein heideggerien par Henri Corbin, réalité humaine. Henri Corbin s'intéresse foncièrement au destin de l'âme, à son pèlerinage, depuis le stade naturel jusqu'à à son paradis intellectif et au-delà. Et c'est le fait de philosophiquement de centrer l'œuvre sur l'âme et non pas sur l'intelligence et a fortiori sur le principe, lui permet de valoriser non pas l'expérience mystique au sens où l'entendait Baruzzi, où nous pourrions la retrouver aussi chez Wittgenstein ou chez d'autres, mais l'expérience spirituelle que l'on trouve chez le prophète et chez l'imam. Et je terminerai là-dessus, Henri Corbin, qui est un très grand islamisant, un très grand islamologue, sait parfaitement, et c'est ce qui lui a d'ailleurs beaucoup plu chez nos auteurs islamiques, que l'expérience fondamentale du rapport à Dieu et du rapport à la transcendance, c'est l'expérience prophétique. Il y ajoute bien sûr l'examen de l'expérience imamologique. Or, l'expérience prophétique, c'est essentiellement l'expérience de l'inspiration prophétique. Et l'expérience imamologique, c'est l'expérience de l'ilham, de l'insufflation de la vérité. Or, cette inspiration, il n'y en a qu'un mot pour deux mots en français, cette inspiration est essentiellement le fait de la vie psychique, de la vie de l'âme. Et voilà pourquoi, entre prophétologie, imamologie et psychologie spirituelle, si vous voulez, Henri Corbin n'avait pas besoin de reprendre les voies de l'interrogation sur la mystique, telles que d'ailleurs les spécialistes du soufisme ont pu la réactiver. Je crois qu'il a, comme philosophe, il est essentiellement en effet un philosophe de l'angélologie, un philosophe de la psychologie spirituelle, avec toutes les médiations que cela suppose, et est foncièrement un adversaire de tout ce qui peut être annihilation, goût du néant, goût du non-être, extinction de soi, bref, tout ce qui appartient traditionnellement à l'expérimentation mystique. Je crois que quand il a parlé du nihilisme, il a parlé en termes équivalents d'un nihilisme qui résiderait dans l'aliénation sociale et historique, et d'un nihilisme mystique qui serait l'annihilation en Dieu. Je propose ça comme ultime hypothèse, mais je crois que annihilation, nihilisme, goût du néant, expérience mystique, fin de la personnalité, fusion dans quelque réalité non personnelle, impersonnelle que ce soit, bref, expérience du fana, en arabe, de l'extinction de soi, tout cela lui faisait philosophiquement, je ne dirais pas horreur, mais en tout cas obstacle à sa pensée. Merci.
Merci Christian pour cette présence mise au point concernant précisément la notion de l'esprit. En ce qui concerne le tâcher la prêtresse, et mon propos sera plus limité et plus modeste, c'est-à-dire qu'à propos de Henri Corbin et de mystique, je vais essayer de résumer à l'intention du public qui n'est pas spécialisé dans l'islamologie et dans l'orientalisme, mes collègues m'en excuseront, les principaux thèmes que Corbin a explorés et quelques auteurs dont il a décrit les œuvres, en me limitant au domaine de l'islam chiite. L'islam, comme vous le savez bien sûr, est divisé depuis longtemps. Entre 1646 et 1680, s'est produit une scission au moment de la succession, disons, du prophète Mohammed. La question, qui est une question bien sûr politique, qui prendra le pouvoir, c'était également une question religieuse. Qui pourra dire le vrai en matière de religion? Qui pourra traduire en quelque sorte la volonté de Dieu auprès des croyants? Mais cette scission a aussi eu des conséquences spirituelles. On en a parlé déjà ce matin à propos de l'exposé de Daniel de Smith, c'est-à-dire que la vie spirituelle orientée vers la personne de l'imam dans le chiisme, l'imam étant vraiment non seulement le successeur du prophète, mais étant une personne infaillible, inspirée par Dieu, une véritable présence divine, une manifestation divine sur terre, le chiisme donc va susciter une forme particulière de mystique. Je n'en parlerai pas maintenant, je parlerai simplement du sunnisme. Pour les sunnites, Mohammed est décédé, il n'a pas eu de successeur, et donc sa succession est assumée en quelque sorte collectivement par la communauté et par ses représentants les plus accrédités, ce qu'on appelle les oulémas. Dans le domaine de la mystique, là aussi, il y a eu des conséquences, à savoir qu'en l'absence du prophète Mohammed, qui finalement pour les sunnites est la seule personne véritablement infaillible, la seule personne qui puisse traduire la parole de Dieu, la seule personne qui puisse interpréter valablement l'enseignement coranique, eh bien, en son absence, donc, comme une espèce d'appel spirituel, et finalement, il y a eu l'idée s'est dégagée que certains maîtres spirituels devenaient héritiers des prophètes, que les véritables héritiers des prophètes étaient les grands maîtres spirituels. L'idée s'est distinguée progressivement au 3e, 4e siècle de l'ère égyrienne, et a été développée parallèlement, disons, mais de façon différente, à celle de l'imam chez les chiites, présence de Dieu sur la terre. Henri Corbin, pour ce qui le concerne, donc, a étudié certains grands auteurs sunnites, précisément parce que ceux-là ont proposé, disons, cette espèce de continuation de la prophétie par un enseignement mystique. Je me bornerai à trois figures, les plus célèbres et qui ont le plus attiré l'attention d'Henri Corbin: Sœur Havardi, Rosalind Barclay et Edna Rabi, bien sûr. Alors, Sœur Havardi, on peut discuter quant à savoir s'il était mystique soufi ou pas. Lui-même emploie le terme de soufisme, même si sa spiritualité était quand même assez paradoxale. Il a été abondamment étudié par Corbin, vous le savez, qui a passé de longues années à étudier, explorer son œuvre. Sœur Havardi a été exécuté en 1191. Il était sunnite, indiscutablement. Il avait vécu sa jeunesse comme un jeune soufi. Il était d'une précocité spirituelle étonnante et d'une grande fécondité littéraire. Sœur Havardi a été assez largement ignoré, d'abord dans les milieux sunnites, parce qu'il était profondément enraciné dans la philosophie, parce qu'il proposait une mystique qui s'expliquait, qui se fondait dans une démarche également philosophique. Et c'était une attitude qui n'était pas du tout partagée par le courant principal de la mystique sunnite. Dans le soufisme, il y a une grande littérature très vaste, plutôt d'ordre moral, spirituel, sapiential. On décrit les états spirituels des grands mystiques. Mais même les grands théoriciens de la première époque du soufisme, comme Toustari ou Tirmidhi, ne sont pas, à proprement parler, des philosophes, ne s'intéressent pas à l'outil philosophique. Et de ce fait, ni les sunnites, ni tellement les orientalistes ne sont intéressés à l'œuvre de Sœur Havardi. Lorsque, au début de ses études orientales,
Corbin a reçu des mains de Massignon un exemplaire de Hekmat al-Ishrar, il a été un des premiers à découvrir cette œuvre qui avait été largement délaissée. Et on sent bien pourquoi Sarah Vardy a été le compagnon de vie de Corbin, parce que il y avait cette espèce de prolongement de la vie de l'esprit du jour fondé sur l'activité de l'intellect, l'un s'harmonisant sur l'autre. Sarah Vardy propose une philosophie qui est complexe, qui est essentiellement fondée sur l'intermédiaire qui existe entre Dieu, on a vu la question aussi de l'étagement, Dieu lui-même, ou la première manifestation divine, et les anges. Cette philosophie est construite comme une angélologie extrêmement complexe, qui n'est pas question d'évoquer ici, que Sarah Vardy a expliqué dans des récits plus courts, Corbin a traduit et commenté, dont elle a traduit et commenté plusieurs dans le volume L'Archange empourpré, et où se retrouve de façon récurrente l'idée du maître intérieur. Le maître intérieur qui se révèle au mystique, enfin, j'emploie ce terme, c'est encore le moins imprécis, c'est l'ange qui est à la fois la face humaine de Dieu et la face divine de l'homme. Mais au final, bien sûr, c'est Dieu qui est le sujet premier et final de toute expérience mystique. Comme il a été dit tout à l'heure, par Daniel Pro, Sarah Vardy a accompagné Henri Corbin depuis très longtemps, déjà depuis donc les années 30, et il a médité cette œuvre pendant très longtemps. Cette œuvre, qui est restée comme une inspiratrice, disons, plus de la philosophie que de la mystique, Sarah Vardy a été exécutée dans des circonstances un peu obscures. Toujours est-il qu'un historien de la Syrie du Nord raconte qu'il aurait été interrogé par les juristes de Fouqara qui lui dit « N'as-tu pas écrit que Dieu pouvait créer à tout moment un prophète ?» Il sera parmi et répond « Dieu a puissance sur tout. » Il aurait été traité de mécréant, ayant mis en danger un des dogmes fondamentaux de l'islam sunnite. Il a été enterré en dehors des remparts de la ville, et le lieu où Sarah Vardy aurait été enterré est repérable, c'est en face d'un commissariat de police. Le petit mausolée qui a été construit à côté, à l'heure actuelle, ne contient même plus le panneau renvoyant au nom de Sarah Vardy. C'est dire qu'il y a là une inspiration spirituelle très forte qui est passée par Henri Corbin, mais qui n'a malheureusement pas eu beaucoup d'ancrage, en tout cas dans le Proche-Orient. En Iran, c'est bien sûr très bien. Deuxième grande personnalité étudiée par Corbin, c'est Husbehan de Shiraz. Lui aussi est un jeune mystique extrêmement précoce, qui a eu des expériences visionnaires tout à fait fascinantes, qu'il raconte dans une sorte d'autobiographie spirituelle. Et il avait une série de rêves absolument, des révélations personnelles absolument étonnantes qui illustrent à merveille le thème de la rencontre avec le divin dans le monde imaginal dont il était question tout à l'heure. Husbehan vivra à Shiraz pendant toute sa vie, principalement à Shiraz, et il décédera en 1209. Son œuvre imposante en arabe et en persan a été explorée par Corbin, qui là encore a été un des premiers à en étudier les pans entiers, qui a exploré sa doctrine, disons, là aussi dans un des volumes en islam iranien. En deux mots, une des idées centrales de Husbehan, c'est que Dieu est inconnaissable à l'homme, car Dieu est toujours voilé. Si Dieu se dévoilait, si Dieu se montrait à l'homme tel qu'il est, l'humanité serait complètement volatilisée, anéantie. Donc Dieu se manifeste toujours de façon indirecte à travers le voile des créatures. Tout ce que nous pouvons voir de Dieu, enfin tout ce que les mystiques peuvent voir de Dieu, quel que soit leur degré spirituel, est toujours un voile, c'est toujours une apparence.
Donc, d'une certaine manière, Dieu est visible partout. Il n'y a rien qui échappe au chapement de la plume de Simon qui en parlait à l'aile ce matin. Mais en même temps, tout est piège, parce que rien ne désigne véritablement et définitivement Dieu. Et quiconque croit discerner son Seigneur dans telle forme précise et si fixe, celui-là devient un idolâtre, celui-là devient un hérétique, et il échoue à ce que Corbin appelle l'épreuve du voile. C'est cette notion d'équivocité, d'amphibolie, traduisée Henri Corbin, qui fait que l'univers tout entier est équivoque, est une immense équivoque. Henri Corbin s'est intéressé tout particulièrement à un cas qu'il retrace dans le livre intitulé « Le jasmin du fidèle d'amour », qui se fonde sur un récit autobiographique. Fosberin était tombé éperdument amoureux d'une jeune femme, donc là il y a un événement, je vais dire, matériel, mais cet amour humain s'est transmué en un amour divin, et le dialogue qui est long entre Fosberin et les réponses qui posaient de la jeune femme montre comment là ce dévoilement a lieu, et que ce n'est pas découvrir Dieu à travers la beauté de la jeune femme, à travers l'amour de la jeune femme, mais c'est vraiment à l'intérieur même de cette expérience que se trouve la présence de Dieu, dans ce qu'elle peut être dévoilée, bien sûr. L'ouvrage est très original dans sa formulation, il n'est toutefois pas unique. On pense bien sûr au diwan, au recueil de poésie d'Ibn Arabi, l'interprète des désirs amoureux, qui relate et commente finalement une expérience assez analogue, ou encore bien sûr au recueil de Rumi, le divan de Shams al-Tabriz. En tout cas, Fosberin le souligne, le bouleversement est nécessaire, ce bouleversement amoureux est nécessaire. Celui qui ne connaît pas ce bouleversement ne peut pas aller plus avant dans la connaissance de Dieu. Un autre texte qui a été là aussi très qui a été édité par Corbin et introduit sous le titre Les paradoxes mystiques est un recueil de Fosberin où il reprend toutes sortes de paradoxes mystiques énoncés par des soufis des premiers siècles et qui montrent toutes ces difficultés que le langage a pour exprimer ces expériences spirituelles. Combien le langage humain ne parvient jamais, il reste toujours paradoxal, et qu'au fond, c'est dans cette phrase exemplaire de Corbin, au fond, tout discours mystique est forcément paradoxal. L'expression de l'inexprimable, écrit Henri Corbin, c'est cela, l'essence du paradoxe. Les paradoxes mystiques, il en relate des centaines, c'est par exemple quand un homme frappe à la porte de Abu Yazid, un des grands mystiques de notre 9e siècle, et Abu Yazid lui répond de l'intérieur, qui cherche-t-il? Et l'homme répond, je cherche Abu Yazid, et Abu Yazid lui répond, malheureux, ça fait 40 ans que je cherche Abu Yazid, je n'ai pas encore trouvé ça. Ou, autre variante en quelque sorte, un homme frappe à la porte d'Abu Yazid, qui répond, qui cherches-tu? L'homme répond, je cherche Abu Yazid, et Abu Yazid lui dit, va-t'en, ici dans cette maison, il n'y a que Dieu. Donc, c'est ça, ce sont des façons paradoxales de traduire ce vécu. Disons que là, la philosophie dialectique est plus en difficulté, au travail. Enfin, troisième personnage, bien sûr, c'est Ibn Arabi, qui est à la fois le plus important. Christian Jambé soulignait le rôle central de ce livre d'Henri Corbin, l'imagination créatrice dans le soufisme d'Ibn Arabi, qui est l'exposé, un des exposés les plus complets, disons, de sa doctrine de la théophanie et de l'imagination créatrice. Je ne présenterai pas Ibn Arabi, donc qui est un grand soufi mystique d'origine espagnole, mort à Damas en 1840, et qui est un auteur profondément sunnite, dont toute l'œuvre est imprégnée de références coraniques,
de hadith, qui insiste beaucoup sur le respect de la loi. Donc on aborde là une mystique qui a fait date, disons, dans l'histoire de la spiritualité en islam. Il y a un avant Ibn Arabi et un après Ibn Arabi. C'est absolument hors de question. Ibn Arabi était accusé de professer que Dieu est tout, une sorte de panthéisme. Et c'est pour ça qu'il a été attaqué par les juristes sunnites, qui l'accusaient de mettre à bas la loi, parce que si on dit Dieu est tout, alors dans ce cas, le vol, le meurtre, tout ça, ce sont des actions internes à Dieu et toute la loi s'effondre. Henri Corbin a beaucoup contribué, avec d'autres, il a beaucoup contribué à remettre les choses beaucoup plus au clair. Le monde a été créé par Dieu comme une immense théophanie. Donc, en quelque sorte, c'est vrai que Dieu est à l'origine de tout, il est vrai que Dieu est la réalité de tout, mais cependant, le monde dans lequel nous vivons, le monde des créatures, n'est pas Dieu dans le sens grammaticalement du terme, nous existons, le monde existe, mais d'une existence relative, écrit Ibn Arabi, alors que Dieu, lui, existe d'une existence absolue. Le monde est donc une pensée de Dieu, une sorte de rêve de Dieu, mais ça ne signifie pas l'anéantissement des créatures en lui. Le monde a été créé par le Verbe divin, par le nom divin, donc il est complètement lisible, accessible, pour qui peut comprendre. Donc il y a chez Ibn Arabi non pas un anéantissement de l'intelligence dans l'approche de Dieu, mais au contraire une expérience de Dieu à l'intérieur même du langage, à l'intérieur même de l'exégèse vécue du texte du Coran qui est fait. Bien sûr, chaque croyant, chaque cheminant sur la voie mystique ne connaît qu'une petite partie de cette théophanie. Et cette petite partie qu'il connaît, c'est l'intention que Dieu porte sur lui. C'est le nom divin, en quelque sorte, qui est adressé en lui et qui justifie sa propre existence. Et donc, il devient un dévot de ce nom divin. C'est le Seigneur dont il est le serviteur. Et Henri Corbin a une très belle page pour désigner comment cette relation du serviteur à son Seigneur donc n'est pas du tout assimilable à du panthéisme et reflète même un lien, disons, qu'on peut appeler personnel, même si le terme est un peu vague au niveau philosophique, mais pas du tout une philosophie, une doctrine de l'anéantissement. Plus le soufi avance dans la voie, plus il connaît le nom, et le saint parfait finit par connaître une totalité des noms divins qui ont créé l'univers. Tout cela a lieu par cette faculté imaginative dont Christian Jambé parlait à l'instant. Pour conclure, je voudrais rappeler que dans le tout premier colloque qui avait eu lieu en 2003, Michel Chodkiewicz précisément avait donné une intervention où il critiquait Henri Corbin sur plusieurs points. Il attaquait en trouvant qu'il négligeait trop le rôle matriciel du Coran, qu'il insistait trop à voir Ibn Arabi un crypto-chiite, et enfin qu'il privilégiait exagérément l'imagination créatrice par rapport à la conscience mystique informelle. Ici, je ne vais pas du tout reprendre le débat, mais indiquer combien pour Corbin il y avait, non pas tellement la recherche, il y avait ça aussi, de trouver des influences chiites dans tel ou tel lieu de la mystique sunnite, mais surtout de voir qu'il y a une forme d'esprit qui finalement est commune, crée une sorte d'ésotérisme commun à la fois au sunnisme et au chiisme, c'est-à-dire l'idée de l'homme parfait qui peut être l'imam dans le chiisme, qui peut être de façon différente, mais quand même assez cousine, le saint, la sainteté d'Ibn Arabi que Michel Chodkiewicz a décrit dans un livre important. Et donc, il me semble que, on a essayé pour cette table ronde, de scinder le propos sunnite, le propos chiite, mais qu'en fait, il y a quand même là une forme d'esprit, une forme d'ésotérisme qui est commune à tout l'islam, et peut-être au-delà, si je ne sais pas si vous avez beaucoup de choses à faire. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors, on a déjà entamé l'échange avec les questions à Daniel Pou. Je ne sais pas, Christian, si tu souhaites réagir au point de vue d'idée.
Oui, enfin, moi j'ai remarqué qu'en fait on employait le mot mystique en des sens très divers. Tu as parfaitement raison, personne en tout cas ne contestera qu'on parle, à juste titre, d'une. D'un système mystique chez Ibn Arabi, en un sens au fond que tu as défini, si j'ai bien compris, par le fait que le simple fait de montrer que la relation entre le principe divin et le monde créé est une relation théophanique introduit un degré de perception qui dépasse l'entendement ordinaire. Et ça, c'est un point, en effet, qui est capital. La notion d'apparition, zuhur, ou de tajalli, d'auto-manifestation, de théophanie, en effet, on pourrait soutenir que c'est une notion qui, bien qu'elle soit entrée ensuite dans le vocabulaire de la philosophie, n'est certainement pas une notion ni philosophique, ni même rationnelle au sens courant du terme.
Je reconnais que le terme mystique, je l'ai employé de cette façon.
Voilà, mais donc ça apporte quelque chose. C'est-à-dire qu'effectivement, la mystique ne se ramène pas à la seule extinction en Dieu ou au seul anéantissement, mais à toute une logique de l'apparition qui peut se appartenir, disons, au registre de l'apparition et de l'icône, par conséquent, et de l'iconostase qui est centrale, en effet, chez ces auteurs. Et alors, il y a le thème de l'amour. Moi, j'en ai pas du tout parlé, mais c'est vrai que, d'abord, il n'y a pas de mystique sans amour. C'est vrai des mystiques chrétiens, c'est vrai probablement d'autres. Mais alors, incontestablement, si j'ai bien compris, Ruth Behan introduit, je t'ai dit quelque chose qui est... Que l'amour humain n'est pas simplement le miroir de l'amour divin, il en est l'expérience même. Donc là, on a quelque chose qui... non seulement valorise l'amour, mais même le place au-dessus de toute considération légale, religieuse au sens courant du terme, et a fortiori, permet un accès à la divinité qui donnerait un sens au mot mystique. Voilà. Alors, mais je reconnais que dans les textes philosophiques, ça n'est intervenu que par le biais de ces spirituels.
Est-ce qu'on peut pas passer ce terme ambigu par ésotérisme? Parce que vous savez que M. Braque enseigne l'ésotérisme occidental, et puis qui, avant lui, M. Antoine Ferre, pendant des années, et avant eux, M. je crois, Secret, etc., ont fondé une chaire à l'école
M. Christian Jean-Béviens est précisément de rappeler donc la pertinence de cette opposition entre ésotérisme et exotérisme en islam, et
dans la pensée du Karma, tout particulièrement.
Oui, mais je soutenais ce...
Trop ambigu.
Non, ça exclut. Je soutiens, c'est un motif à discussion, je soutiens pas la mordicus, mais je soutiens un peu quand même, que là où il y a le couple Batten-Zahir, ésotérique-exotérique, on n'a pas affaire à un discours de la mystique proprement dite, mais à un discours, en effet, de la correspondance entre des mondes, à un discours donc de nature métaphysique, et qui ne relève pas de cette expérience vécue de la théophanie ou de l'amour dans la vie concrète, etc. Et ça renvoie d'ailleurs à un couple de termes qui est philosophie d'un côté, ou comme on voudra, ou sagesse d'un côté, philosophie, et expérience de l'autre.
Et ce matin, Léliane Vard, j'ai remarqué qu'en commençant ton exposé, en persan, le terme mystique n'avait pas d'équivalent.
Ah, je vous en prie, allez-y.
Oui, en fait, je voulais dire que c'est beaucoup focalisé sur le sens et les différents sens qu'on peut mettre sur la mystique, mais je dirais que c'est presque pareil pour la philosophie. Finalement, quand on tombe en philosophie, ça me fait penser à une expérience que j'ai eue quand j'étais en Cagne. Mon professeur de philosophie est un philosophe bon sein, comme on peut l'imaginer. Mon professeur de philosophie un jour donnait une interprétation de Platon, et moi, dans l'innocence de mes 18 ans, ayant lu comme ça vaguement Thora Hardy, je lui dis, mais quand même, les philosophes mystiques n'interprètent pas Platon comme vous. Et il m'a répondu tout de go, mademoiselle, les philosophes mystiques ne sont pas des philosophes.
Oui, mais c'est d'ailleurs, on est au cœur, enfin, je ne sais pas, pardon, mais on est au cœur de notre affaire, parce qu'il y a des philosophes. Moi, je ne sais pas, si on prend comme point de départ, en islam iranien, qui est un bon, le fait qu'il y a le magnum opus, on voit très bien que les platoniciens de Perse, comme ils les appellent, d'ailleurs, Sohrawardi et ses disciples, correspondent tout à fait à ce que vous dites, tandis que les philosophes du schisme duodécimain présentent un visage beaucoup plus complexe. Et en tout cas, il faut se référer à ce moment-là, chez eux, à tout ce qui concerne le destin de ce monde intermédiaire qui est le monde de l'âme. Enfin, c'est ça que l'impression que j'avais. Et en tout cas, moi j'ai l'impression que les sunnites, c'est-à-dire Sohrawardi, Ibn Arabi et Rusbehan, sont plus libres de produire, d'ailleurs à tard, une logique de l'expérience spirituelle qu'on peut dire mystique, tandis que les figures platoniciennes intérieures, enfin, ou plotiniennes, que l'on rencontre dans le chiisme, présente des traits spirituels d'un autre ordre, d'une autre nature.
Oui, moi je me demanderais à savoir si le terme mystique, quand on l'emploie chez Corbin pour parler de la médiation ou du monde imaginaire ou de cet accès à cette théophanie-là, peu importe ce qu'on entend par accès, de ce que je me souviens, généralement le terme que Corbin utilise pour parler de cet accomplissement-là ou de cet accès-là, c'est le terme de réalisation spirituelle. Oui. Et plutôt que de parler de mystique chez Corbin, je crois qu'il faut plutôt parler de réalisation spirituelle, et il emploie ce terme-là à de très nombreuses occurrences. Et sur la question des philosophes mystiques, encore là, de ce que je réalise en réfléchissant à ça, c'est que quand Corbin utilise le terme philosophe dans ses textes, c'est plutôt péjoratif. Il fait référence aux philosophes rationalistes et il utilise généralement le terme de... Pour lui, un vrai philosophe est un théosophe.
Non, ça dépend des moments. Ça dépend des moments. Là, je ne suis pas d'accord. Je suis absolument pas d'accord. Je pense que Corbin a... Enfin, on peut discuter des termes à l'infini. Mais
prenons-le étymologiquement.
Étymologiquement, il n'a jamais cédé sur le mot philosophie. C'est un point très important parce que il n'a, si vous regardez bien, d'accord, quand il dit c'est un vrai théosophe ou bien nos théosophes, etc., c'est d'ailleurs à partir d'une certaine date pour bien les distinguer des philosophes qui s'en tiennent à un enseignement exotérique et qui s'en tiennent au niveau de l'entendement. Bon, mais enfin, tout de même, lisez ce qu'il écrit sur, par exemple, Mulla Sadra, qu'il n'a pas moins fait découvrir que Sohrawardi à la même époque. Bon, pour lui, c'est un philosophe, et c'est même un métaphysicien. Et quand il ne dit pas théosophe, il dit philosophe-métaphysicien. Ce qui me plaît davantage, je ne cache pas. Et pas parce que ça dit vraiment la vérité de ces penseurs. Non, le point, moi, que je voudrais souligner, mais que je n'ai pas eu le temps de relever, c'est pourquoi le monde imaginal est-il étendu à toute l'âme. C'est-à-dire, pourquoi Corbin a-t-il... je prendrai un exemple. Chez un auteur chez Moula Sadra ou Kazi Saïd Koumni, il n'y a pas de monde imaginal. Il n'y a pas de monde imaginal. Ils disent, je cite de mémoire, le monde intermédiaire est comme est l'imagination au sein de l'âme. C'est-à-dire, c'est une analogie. Alors, comment est-il passé d'une analogie entre l'âme et les trois mondes, le monde de la nature, le monde de l'âme, le monde de l'intelligence, comment est-il passé d'une analogie à une assimilation? Comment a-t-il décidé que le monde de l'âme serait un monde de l'imagination? Réponse. Il a pris l'imagination divine chez Ibn Arabi et il l'a flanqué dans le monde de l'âme. Alors que chez Ibn Arabi, il n'est pas dans l'âme. Elle est immédiatement à la source divine. Ça s'appelle un coup de génie, une opération. Mais dans les textes, il n'y a pas de monde imaginal. Pardon. Alors, si vous me trouvez un monde imaginal, il n'y a pas de monde imaginal chez les philosophes. J'en appelle à mes témoins parce que là, c'est grave. Chez les philosophes. Et ils disent, Alam al-Khayal, c'est le monde intermédiaire, et on l'appelle ainsi parce qu'il est intermédiaire, comme l'imagination chez Aristote, et l'Aristote est intermédiaire entre l'essence et l'intelligence. Comme, à la manière d'eux. Bon, et si vous trouvez un monde imaginal chez Sohrawardi, vous aurez de la chance. Ça ne veut pas dire top. Donc, il y a là un opérateur fonctionnel, philosophique et spirituel, qui joue un rôle, je ne suis pas en train de dire, ça n'a pas de sens, qu'il s'est trop fin. Vous imaginez bien. Mais il opère très consciemment quelque chose pour unir les mystiques type Ibn Arabi, il a vu qu'il jouait en effet un rôle, à tout le domaine philosophique, et pour donner au mot philosophie un sens nouveau, qui est philosophie spirituelle. Voilà, c'est une stratégie extrêmement élaborée. Voilà. Pardon, j'ai l'impression que vous êtes effondré. Mais j'en appelle aux témoins.
Je vous en prie. Anima et animus. Et actuellement, on distingue plus anima et animus, et c'est ça qui mène à la catastrophe.
Anima, monsieur, je vous en prie, on a
c'est
un bon appel
à demander la parole.
Je vous en prie.
Donc, le problème, c'est le mot de l'antiquité.
Je l'appelle
à le spectre. Il y a anima et animus. Et donc, dès qu'on dit cette question, le mot âme est déclaré en deux. Et après, le problème est résolu. L'anima, c'est psyché. Animus, c'est nous. Et le corps, c'est soma. Voilà. Et le problème est fini.
Alors, ma question est rejoint celle de Eliana. C'est-à-dire qu'à vous entendre toutes, et en particulier ce que Christian Jambet a dit, du souci permanent de Corbin de rester philosophe.
Oui.
Et en même temps, Corbin n'a jamais cessé d'exprimer son inquiétude, sa désapprobation, etc., à l'égard des... à l'égard de l'état actuel de la philosophie, c'est-à-dire du fait que la philosophie, selon lui, ne permettait plus une orientation, justement, d'où ce thème de la philosophie orientale. Alors, au fond, ma question est simple, je me demande finalement si cette difficulté qu'il y a à définir la mystique, à savoir si Corbin, la pensée de Corbin présente ou non une dimension mystique, etc., ça ne renvoie pas indirectement à une difficulté qui est celle de la philosophie telle que Corbin l'envisage. C'est-à-dire à la fois comme une discipline qui doit garder une rigueur, donc à cet égard ne pas être mystique, au sens courant du terme, c'est-à-dire en raison de l'alternative que vous rappeliez, c'est ça ou ça, mais en même temps d'une réorientation de la philosophie qui fait qu'elle doit s'ouvrir à autre chose que à cette ratiocination ou à cet aspect discursif. Donc au fond, est-ce que, en arrière-plan, c'est pas le statut de la philosophie qui préoccupait aussi Corbin, beaucoup plus peut-être qu'on imagine.
Mais aussi bien le statut de ce qu'on appelait mystique.
Oui,
il ne cesse de dire, c'est ce que vous rappeliez, pas d'expérience. Enfin, c'est la manière dont il a interprété le prologue du livre de la sagesse orientale. Je dis bien sa façon. Parce que Sauravardi dit littéralement que celui à qui revient l'autorité doit être le philosophe doué d'une part en philosophie dialectique, et en recherche, et d'autre part qui s'est divinisé. C'est-à-dire qui a pris le programme platonicien de se rendre semblable à Dieu. Ce qu'il traduit par qui est accompli aussi bien dans l'expérience spirituelle, l'accomplissement, le tahakkuk, que dans la philosophie dialectique. Donc équilibre. D'accord. Mais il disait quand même que c'était l'affaire de la philosophie que de conduire à cette réalisation. Et ce qui d'ailleurs le distingue, je suis absolument d'accord avec ce que disait Leidenwar ce matin, s'il met entre parenthèses les poètes, pour quelqu'un qui a traduit les conférences de Heidegger, qui sont aujourd'hui la Bible de tous les poètes, dans leur prétention à incarner l'essentiel. Dans 1938, il y a les conférences sur Hölderlin, qui sont déjà, elles sont présentes dans le recueil de 38. Or, il n'en tire pas du tout la conséquence que le poète est le gardien de l'être. Le gardien de l'être, c'est Mulla Sadra. C'est celui qui, alors là, pour le coup, c'est du Heidegger repris, qui distingue l'être de l'état. Et c'est El-Wujud. Et donc, les philosophes de l'être, El-Wujud, autrement dit, les philosophes disciples d'Ibn Arabi, représentent le véritable destin spirituel de la métaphysique, ce qui efface à ce moment-là tout le conflit, et qui permet de réconcilier. Mais l'absence des poètes est en effet quand même très significative. L'absence de Rumi, l'absence d'Atta, enfin, quelles que soient les allusions flatteuses qu'il fait. Mais il ne s'intéresse pas, très étonnant pour un homme qui écrit aussi bien, l'expérience poétique est laissée absolument de côté.
Daniela.
Oui, alors justement,
moi aussi,
je voulais commenter un peu sur ça. C'est vrai que je suis d'accord, il ne s'intéresse pas vraiment aux poètes, mais par contre, il fait une série de références à Dante. C'est intéressant parce que dans, bon, ce matin je vais parler en rapport à la comédie, vous savez que Dante a écrit un grand traité philosophique, Le Banquet, le Convivio, qui est resté interrompu précisément parce que Dante, à un moment donné, décide de faire le saut et de écrire la comédie. Mais ça ne veut pas dire que cette expérience de philosophe disparaît de son être. Et donc, pour en revenir à versant européen de toute cette histoire, j'ai évoqué aussi Albert Legrand. Donc, il faut penser que Dante est héritier. Meister Eckhart et la mystique rhénane sont héritiers d'une forme de philosophie mystique ou de mystique philosophie qui a été, après ce moment-là, disparaître complètement de la situation européenne. Mais c'est peut-être là, exactement là, que nous devons retrouver en sol européen ce projet de réunion et de dualité, je dirais, entre la mystique et la philosophie. Cette fusion des deux, elle doit devenir les deux faces d'une même réalité. Je crois personnellement que c'est ça ce que vraiment intéressait. Enfin, c'était cette réunion des deux.
La réunion, ça.
Oui, vous en prie. Oui.
Il y a un terme qu'on n'a pas beaucoup entendu aujourd'hui, c'est celui du gnose, que Corbin utilisait, mais plus souvent que celui de mystique. Je voulais savoir quel était le rapport, justement, qu'il entendait de la gnose par rapport à la mystique, et surtout de la gnose par rapport au monde imaginal.
Décidément, le monde imaginal a la vie dure. Mais non, mais je, d'abord, la gnose et le monde imaginal, à ma connaissance, ça n'a rien à voir. Je veux dire, Erfan, c'est un savoir total dont je pense de plus en plus qu'il équivaut alors à gnosis au sens de l'accomplissement complet d'un système de correspondance spirituelle équivalent à ce qu'on a chez Clément d'Alexandrie, chez Origène, chez Philon d'Alexandrie, chez des penseurs de cet ordre. Avec en plus, c'est vrai, c'est pour ça que c'est un mot intraduisible, belle femme, une dimension expérimentale qui correspond à des termes arabes, je ne sais pas ce que, qui sont zaouk, la fruition, wishdan, et surtout hein, quelque chose de très énigmatique et qui a beaucoup intéressé Corbin et qui est bien plus important que le monde imaginal comme thématique, c'est-à-dire la connaissance de la présence. Hodur. Ça, c'est ce qu'il appelle connaissance présentielle. Ça, il l'a très bien. Et là, il y a quelque chose qui, en effet, est inséparable de la notion d'Elfan. Dont le mot gnose, vous avez raison, il ne cesse de dire les gnostiques, les théognostiques, dans un système de pensée, où, hélas, on confond un peu trop ces gnostiques avec les gnostiques valentiniens, tout ça, qui n'a pas grand rapport, quand même. La gnose n'est pas, ce matin ça a été très bien dit, n'est pas une mystique, puisque c'est au contraire une connaissance qui dévoile les secrets. Quand même, les ouvrages s'appellent les clés de l'invisible. C'est tout sauf une non-science, une inscience ou une inconnaissance. On n'est pas dans le nuage de l'inconnaissance, mais au contraire dans la connaissance absolue.
Il y a d'autres réactions, commentaires ou questions? Oui, monsieur Faye.
Si vous permettez de prendre les mots où il y avait la présence. Je pense que ça, c'est un mot clé pour comprendre le prana. C'est-à-dire, vous avez évoqué les temps et l'être, Zahir et Bantel, l'ésotérique et l'exotérique. Et ça, vraiment, il y a une dialectique, et une opposition presque. C'est difficile de dire opposition, mais il y a une dialectique permanente entre ces deux thèmes. Donc, s'il y a une présence, il y aura une absence. Et vice versa. Et je pense que pour le mot phana, vous avez évoqué c'est-à-dire l'opposition de Corban à cette notion de phana comme un arrondissement de l'être. Et moi, je pense que les auteurs, les mystiques, les soufis de l'islam, ils n'utilisent pas le mot anéantissement. Pour eux, le phana, justement, c'est une présence. C'est, en fait, il dit donc c'est une présence, mais c'est une présence étonnante, paradoxale, parce que c'est comme un anéantissement. Et il donne comme exemple, comme la bougie, la lumière de bougie devant le soleil. Donc, il est présent, mais il n'est rien de tout devant la présence divine. Moi, je pense que peut-être, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette analyse sur la question du phana et la présence aussi.
Je ne sais pas, vous pouvez tous répondre. Vous avez raison, les choses vont par couple. Et il n'empêche que je ne disais pas que Henri Corbin ne se refusait à la notion du phana, parce qu'il en parle abondamment et nécessairement, mais qu'il la prend toujours solidairement à la notion de baka, de permanence ou mode d'existence permanent. Mais par la même, il met entre parenthèses, volontairement, un certain nombre de textes plus proches chez les philosophes, là je parle, hein, chez les philosophes spirituels, plus proche de ce qu'on lit chez Hallaj, d'un fana radical. Par exemple, l'expression de destruction ou évanouissement ou destruction de sa propre ipséité. C'est une thématique qui est sans cesse présente chez des interprètes de la mystique musulmane qui ne sont pas présents chez lui. Chez lui, c'est toujours le couple. Et pourquoi? Parce que vous êtes mon maître, vous savez ça infiniment mieux que moi. Ce sont ces couples qui sont, comme vous dites, avec ces paradoxes, avec cette absence présente, etc., qui sont consubstantiels, entre autres, à l'imamologie spirituelle et à l'anthropologie spirituelle qui est au centre de sa méditation. Il n'y a jamais d'absence sans présence, jamais de présence en effet sans une absence, jamais d'ésotérique sans exotérique, etc. Donc on n'a jamais une démarche, une, qui aille au-delà, dans une transcendance absolue, eu égard à tous les degrés antérieurs. On est dans un système de correspondance entre makamat, darajat, etc., etc. On n'est pas tout à fait dans l'élément que nous décrivait ce matin Léli Anvar quant au stade final de l'expérience chez Attar. Si je me fie du moins à ce qu'a écrit par exemple Massignon sur Attar, mais je me trompe peut-être, je connais moins bien Attar que vous, alors je... Voilà. Mais ce sont des nuances, hein.
Mais
de
souvent on s'arrête à l'anéantissement, alors qu'en fait,
moi je vous posais une question. Non mais quand même, je pense.
Je laisse juste vous dire à ça vous répondre.
Répondez-moi.
Après l'anéantissement, voilà ce qu'il dit. Puis, quand 100 000 siècles se furent écoulés, des siècles hors du temps, sans avant ni après, les oiseaux qui avaient embrassé le néant furent rétablis à l'être par l'effet de sa grâce. Et comme tous étaient sans eux, et plein d'eux-mêmes, tous, après le néant, furent rendus à eux-mêmes. Ça plaît à Corbin.
Voilà.
Il n'est pas perdu. Tous renouvelèrent d'être dans les temps absolus, mais personne jamais ne put ni ne pourra parler de ce néant ni dire cet étant, de même qu'il est lui loin de toute vision, de même cet état est éloigné du dire. Pourtant, nos compagnons veulent l'allégorie qui pourrait rendre compte de l'étant post-néant.
Merci beaucoup. Je crois que monsieur Restrel,
merci de l'explication de ce que vous avez. Je pense que pour reprendre le thème de Attar, lui, le mot bon boudé, c'est-à-dire bon cheval. C'est-à-dire,
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres réactions aux questions? Ou bien nous arrêtons à cette belle poésie pour clore la journée?
Oui.
Bien, merci à vous tous pour votre présence.
Voilà.